un bon bout de temps a passé depuis le premier épisode et j'aurais aimé vous dire que j'étais dans ce bloc ou de Frévaux à Olinda, comme il y a 2 ans, et donner l'excuse d'avoir emprunté un tunnel carnavalesque de janvier à mars dernier. Mais rien à voir, j'étais tout simplement épuisée d'avoir mené un travail délicat et passionnant autour du sujet qui nous intéresse ici, celui des appropriations musicales. C'était dans le cadre du No Border, le festival des musiques populaires du monde, que nous organisions avec Drôme, une association bretonne de promotion et de transmission de musique populaire et modale. Ce colloque était intitulé « Appropriation culturelle » au pluriel. C'était l'occasion pour moi, qui était en charge de coordonner scientifiquement la rencontre, d'inviter des artistes, de sortir des déclarations de principe et de confronter différentes postures musicales face au processus d'appropriation, de mettre en présence des positions à la fois critiques et pratiques autour de ce sujet qu'on pourrait croire clivant. Mais le sujet s'avère plus polarisé que clivant. En effet, si beaucoup persistent à choisir le camp du pour ou du contre, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup d'espace de débat sur la question. Ce qui est clivant, c'est le fait même de vouloir en débattre. Du côté pour comme du côté contre, tout le monde s'accorde à dire que ce n'est pas un sujet de discussion. Après de nombreuses tentatives à convoquer des paroles critiques, des coloniales militantes, j'ai essuyé de nombreux refus ou ghosting pour raisons d'indisponibilité, de sursollicitation, mais aussi parfois de désintérêt ou de méfiance vis-à-vis du champ des musiques traditionnelles et du monde que le festival aime représenter. Ironie du sort, je constituais ce colloque avec des panels d'artistes sincères, acceptant de mettre sur la table des discussions leurs pratiques d'appropriation, mais, malgré moi, se dessinait un colloque sur l'appropriation culturelle entre artistes et scientifiques, majoritairement européens et blancs. Un vrai océan de blanchité, comme dirait la philosophe Sarah Ahmed. Cet inconfort politique m'empêcha de dormir pendant plusieurs semaines, mais il fallait l'assumer avec l'ensemble des organisatrices. Et ce travail réflexif que je commençais à engager avec vous et ce podcast, il allait falloir l'assumer aussi sur une scène devant un auditoire en attente de réponse, face à ce sujet brûlant. Avec une équipe flambante, courageuse, honnête intellectuellement, nous avons fait le pari de la réflexivité depuis le monde occidental, européen et blanc. Et le colloque s'est ouvert en grande pompe, dans cette salle du Quartz, scène nationale de Brest, pour un public de plus d'une centaine de personnes, ce qui est relativement beaucoup pour des échanges intellectuels et matinaux en plein festival.
Et bonjour, je suis Umayaku, d'origine Quechua Aymara. C'est pas facile en tant que personne racisée parler devant beaucoup de personnes blanches. Et la question c'est, est-ce que vous voyez que vous êtes en train de parler de l'appropriation culturelle et que les panels se constituent que pour des personnes blanches, privilégiées, qui font des analyses, des interprétations, d'argumentation sur les sujets de l'appropriation culturelle intra-européenne et extra-européenne et qu'il n'y a aucune personne dans les panels qui vienne d'un milieu défavorisé.
Umayaku a été courageuse. Le malaise que son intervention a provoqué dans la salle a demeuré jusqu'au lendemain comme un élément de composition, comme une façon de ne pas détourner le regard ni la pensée. Ce que nous constations ensemble, c'est que l'auditoire restait là, comme Umayaku, à ne rien perdre des échanges, à prendre des notes, à s'autoriser à poser des questions gênantes. Nous avions fait un premier pas collectif dans l'énonciation d'un phénomène ordinaire et contestable, celui de l'appropriation musicale. Je fus soulagée de cette prise de parole, honnêtement soulagée de voir que nous avions réussi ensemble à faire d'abord une autocritique, puis une politisation de notre sujet. Nous avons enfin assumé d'aborder les questions de domination, d'inégalité, d'argent, de dépossession symbolique, et tout cela dans un lieu de partage de cultures minoritaires, de musique, de chants et de langues subalternes, bien qu'appartenant à l'Occident et à la blanchité. Ce que j'avais moins prévu, en revanche, c'était les coups de bâton qui arriveraient par l'autre côté. car en me voyant ouvrir la boîte de Pandore des discussions autour de l'appropriation culturelle, les gardiens d'une certaine rationalité universaliste me reprochèrent dès le lendemain de faire le lit politique du communautarisme. Je vous avoue que créer des espaces de discussion et d'analyse sur ce sujet dans une société aussi polarisée, c'est quand même une épreuve. Comme être dans la foule qui suit ce bloco de Frévaux en plein cagnard nu nord-est et dans une rue en pente. Mais ça reste euphorisant. Il me fallait quand même quelques semaines pour m'en remettre et maintenant je crois que ça va, qu'on peut retourner à Marseille et reprendre le boulot.
Et la musique, elle est à qui ? Chronique marseillaise et impertinente d'appropriation manifeste. Un podcast réalisé par Anaïs Vaillant et proposé par la FAMDT.
Bien sûr, le colonialisme a été international et outre-mer, et il a été incomparablement plus violent en dehors du monde reconnu comme occidental ou blanc. Mais il me semble que le dispositif colonial, la logique coloniale, a plus échoué en dehors de l'Europe qu'en Europe. Dans le sens, même si on a été moins colonisé en termes de dette de sang, de violence physique, en termes de pillage, etc., ceux qui me semblent le plus colonisés culturellement sont les Européens.
Deuxième chronique, appropriation et réappropriation, même combo. Ou comment l'Occitanie se compose et se recompose à Marseille. Avec l'anthropologue Jérémy Piola et les musiciens Manu Théron et Sam Carpiania. En 2011, Jérémy Piola publiait son essai « Portrait du colonialiste, l'effet boomerang de sa violence et de ses destructions ». Deux ans plus tard, je soutenais ma thèse qui corrélait l'appropriation de musique du monde au sentiment de manque de culture populaire locale. Lui-même illustrait une même idée en relatant dans son livre un épisode connu de la série documentaire Striptease, où l'on y voit des Françaises au Mali qui exécutent pour leurs hôtes la danse des canards, comme une danse typique de chez elles. Jérémy Piola raconte qu'à ce moment-là, devant sa télé, il a honte. Il a honte d'être français. À l'époque de ma thèse et devant son livre, je me dis que je ne me sens pas française de la même manière que lui et que ses touristes au Mali. Et dans une même situation, j'aurais plutôt dansé une farandole provençale, une mazurka niçoise ou une courante des vallées piémontaises. Le sentiment de honte faisait aussi partie de l'histoire, mais d'une autre façon. Nous y reviendrons dans cet épisode. Danseur et penseur francophone du racisme, de la blanchité et des cultures populaires, Jérémy Piola était bien sûr incontournable dans cette enquête. En reprenant contact avec lui ces derniers mois par le biais de la FAMDT, nous rediscutons ici à la fois de cette notion complexe d'appropriation culturelle, mais aussi de cette soi-disant absence de culture populaire en Occident, en réalité fruit d'effacement et d'humiliation historique.
Moi, personnellement, on ne m'a pas appris de culture populaire. Mon peuple ne m'a pas appris de culture, notamment par ceux qui vont me socialiser au départ, ma famille, mes parents, ils ne m'ont pas transmis de culture. Ils ne m'ont pas transmis de culture dans un sens précis, parce que le mot culture est un mot au sens infini, et c'est ça qui est intéressant. Pour moi, j'appelle ça le sens émique du mot culture, c'est-à-dire que c'est le sens que donnent mes interlocuteurs extra-occidentaux. Ils désignent la culture comme un ensemble de savoirs, de conceptions relatives au monde, humain et non humain, qui leur donnent d'abord de la force, auxquels ils restent attachés depuis qu'ils sont nés. Et ils sont capables d'énoncer quels sont ces savoirs, en termes de danse, en termes de chant, en termes de convocation de la mémoire, en termes parfois aussi d'écriture, qu'elle soit orale ou tout simplement aussi écrite. Et je ne trouve pas ça ici. J'ai cherché à plusieurs endroits où on m'a invité quelque chose qui avait la puissance de la salsa cubaine ou du mbalar sénégalais, et je ne l'ai pas trouvé. En tout cas, je constate que moi, on ne me l'a pas transmis. Et je constate que finalement, on l'a assez peu transmis à mes congénères ou mes, collègues de blanchité ou d'européanité ou occidentalité. Je dis européen, eurodescendant, si on préfère blanc. Blanc, ça veut dire, dans un contexte qui est celui dans lequel on vit, ils sont considérés comme blancs. Je ne fétichise pas la blanchité en disant que c'est quelque chose dont on ne sortira jamais et qui existe de toute éternité et de tout contexte. Il y a des gens qui, sur différents sujets, vont voir de l'appropriation culturelle, par exemple, partout, où le mot va être brandi comme un étendard passionnant, mais peut-être que cet étendard ne se retrouve pas au bon endroit, au bon moment. C'est comme si tu brandis le drapeau de l'OM dans une tribune du PSG. Il ne faut pas s'attendre à des bonnes réactions si tu ne le fais pas au bon endroit. S'approprier quelque chose, quand par exemple j'apprends une danse, si j'apprends un pas de danse, ou un mouvement de danse que me transmettait ou que m'ordonnait de faire un chorégraphe, je m'appropriais sa chorégraphie. C'est ce qui m'était demandé. Approprie-toi les pas. Approprie-toi le mouvement. J'avais un enchaînement où il fallait, je sais pas moi, remonter mon coude, mettre mon bras en avant, mais surtout pas bouger ma hanche. J'y arrivais pas tout de suite. On me disait, allez, approprie-toi le mouvement. Donc même moi, quand j'ai entendu appropriation culturelle là-bas, je me suis dit, est-ce que c'est s'inspirer correctement d'une culture? Donc c'est pas du tout le sens que ça a. Mais par contre, je pense que les Occidentaux ne s'en sortiront pas s'ils veulent dépasser l'imaginaire restreint qui est le leur, sans s'inspirer parfois de phénomènes culturels et esthétiques non occidentaux, reliés à des postures, des combats, des réflexions, des pensées non occidentales. Par contre, il faut qu'ils aient conscience de là où ils sont en train de prendre quelque chose pour essayer d'évoluer. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'à un moment donné, l'émergence d'une musique pratiquée, entre autres, par un groupe majoritaire à certains endroits, ou privilégié à certains endroits, efface l'origine minoritaire de cette musique-là. Et je pense qu'il serait intéressant, peut-être des fois, de retravailler ce qui existe à partir d'influences partielles et de techniques partielles, induisant un autre rapport au rythme.
Les Occidentaux ne s'en sortiront pas s'ils veulent dépasser l'imaginaire restreint qui est le leur, sans s'inspirer de phénomènes culturels non occidentaux, nous dit Jérémy Piola. Cette phrase résonne dans ma tête comme une évidence. Mais ça, je le dois surtout à Marseille et à son courant musical occitaniste, qui doit aussi beaucoup aux Toulousains, à la Ligne Imagino, à Claude Sicre, au Fabulous Troubadour, etc. Je ne pourrais pas rentrer dans cette histoire ici et les ressources sont déjà bien nombreuses. En tout cas, dès mon retour de Brest, j'éprouvais le besoin d'entendre Marseille et d'écouter la ville depuis cette intersection précieuse, celle de la blanchité occidentale, de la subalternité occitane, de la primauté de l'identité marseillaise sur l'identité française et d'une mixité sociale historique. Pour Jérémy Piola, on ne peut pas considérer qu'il existe d'appropriation culturelle entre minorités. Et il nous dit que de sud à sud, cela ne compte pas. Pour autant, nous aborderons avec nos deux musiciens marseillais les appropriations musicales nombreuses et volontairement choisies pour une réappropriation de l'occitanité à Marseille, en solidarité avec les autres minorités, en toute conscience anticoloniale et antiraciste. La grosse ambiance que vous entendez derrière moi, c'est une ambiance marseillaise et occitane des années 1990, avec le trio de polyphonie Gatchempeg, composé de Manu Terron, Sam Carpienia et Barbara Hugo. Ce n'est ni de la salsa cubaine, ni du mbalar sénégalais, mais bel et bien de la polyphonie occitane sur des percussions du sud de l'Italie, et c'est suffisamment puissant pour me donner envie de retourner voir les artistes qui m'ont sensibilisé à l'occitan de cette façon joyeuse, festive, engagée et libertaire, Manu Terron et Sam Carpienia. Manu Terron est né en Lorraine d'une famille originaire de la région parisienne. Ses parents, militants et amateurs de rock, s'installent aux alentours de Marseille alors qu'il n'a que 3 ans. Il apprend le piano avec sa grand-mère et passe une partie de son adolescence en Algérie avec son père. De retour en France, il entre aux Beaux-Arts de Marseille, puis part étudier en Italie du Sud et en Bulgarie où il s'imprègne de chants populaires. Il découvre le mouvement occitan auprès du Massilia Sound System et en devient peu à peu un acteur essentiel, notamment avec la compagnie du Lamparo et ses groupes Gatchempeg, Loukouar de la Plane ou La Voix à la Peau. Manu Terron continue d'arpenter cette vocalité occitane polyphonique qu'il transmet à Marseille, en France et dans le monde.
J'ai donné des stages dans l'Europe entière et même aux États-Unis et même au Brésil. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que je n'ai jamais eu affaire à un tel niveau d'acculturation que celui que j'ai rencontré en Occitanie. À tous les endroits où, ailleurs, les expressions de la culture populaire sont en pleine vitalité. Il n'y a qu'en France que j'ai senti, que j'ai compris, que j'ai perçu un niveau d'acculturation aussi grave, aussi abyssal. Je pense réellement que la supériorité autodéclarée du monde des Lumières et de l'universalisme a vraiment contribué, non seulement à développer une forme de colonialisme d'une cruauté culturelle incroyable, mais aussi à produire en France des humiliations, jusqu'à parvenir à une éradication. Et tout le monde a constaté cette disparition, tout le monde s'est regardé en disant « mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Alors les Indiens disaient « oh ben, c'est pour accéder à une classe sociale, mais c'est pas vrai en Catalogne, c'est pas vrai, tu vois, il y a plein d'endroits où ça n'est pas vrai du tout. » Ah ouais, bon, alors c'est parce que un pays normalement constitué ne peut pas vivre avec plusieurs cultures sur le même sol. C'est pas vrai en Suisse, c'est pas vrai en Angleterre, c'est pas vrai en Allemagne, c'est pas vrai dans plein d'endroits, en Belgique, c'est pas vrai, enfin bref. Toutes les explications qu'on nous donnait étaient absolument inopérantes. Le premier examen critique faisait qu'on se disait « mais c'est n'importe quoi ce qu'on nous raconte ». Claude Sicre donc disait vraiment « c'est des peuples qui ont honte de leur musique ou de leur culture populaire ». C'est-à-dire qu'en France, il y a une honte permanente qui va jusqu'à la détestation, jusqu'au rejet, jusqu'au déni des cultures populaires. Il y a plein d'explications depuis la Révolution là-dessus qui sont toutes, pour moi, pertinentes. En ce qui regarde cette appropriation qui était celle d'un non-occitan familial d'une expression vocale occitane, pour moi, elle était évidente ici parce qu'elle participait aussi à un travail de réflexion sur le rejet non seulement de l'occitanité, mais de l'homosexualité et aussi de l'arabité de Marseille. Pour moi, c'est une grande douleur de voir que dès qu'on entrait dans un taxi ou dès qu'on entrait dans un resto, la première chose qu'on entendait, c'était « Ah, il y en a marre des Arabes ». Comme le discours, en général, ne s'arrêtait pas là, il y avait « on a marre des Arabes », virgule, et les PD, donc je savais qu'il y avait quelque chose de lié. Bon, moi, j'ai vécu dans ce paradigme un peu contraignant, où je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe avec cet Occitan qui est fui comme peuvent l'être les Arabes ou les PD? Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette vergogne? Pour rechercher soi-même aussi, en soi, pourquoi on était acculturé. Donc, moi, je t'ai raconté mon histoire, on va dire culturelle et musicale, mais j'étais quand même acculturé, dans le sens où mon accession au texte des cultures populaires et à la musique des cultures populaires, c'est quand j'avais 16 ans, 17 ans, c'est-à-dire quand l'enseignement que j'ai reçu était arrêté. Après le bac, que j'ai pu aborder ces cultures sans aucune forme de dépréciation du matériau qui les constituait. On peut dire que je me suis approprié l'histoire aussi, mais surtout la pratique culturelle d'une création en musique occitane. Mais la mienne, elle est héritée vraiment des créateurs qui ont pris les musiques dites traditionnelles et qui ont opéré des transformations en pleine conscience, dans le jeu, toujours avec une envie de jouer avec les référents. Mais pour moi, il n'y a aucune faute de goût dans toute cette élaboration qui a commencé dans le début des années 70 et qui a perduré depuis. J'ai eu l'impression de m'emparer de quelque chose qui ne m'était pas dû ou qui ne m'avait pas été transmis de façon familiale. En fait, ce que je me suis dit surtout, je me suis dit « oui, certes, mais tu es en train de construire quelque chose ici. » Et donc, tu ne le fais pas à Nouakchott ou à Lille, hein, tu le fais réellement à Marseille, dans un endroit où tu penses qu'il faut refamiliariser les gens avec leur héritage. Parce que La privation de cet héritage est une des raisons de l'acculturation que tu as constatée chez beaucoup de tes contemporains. Quand je suis parti pour la Bulgarie entre 1993 et 1995, donc j'ai appris l'occitan en même temps que j'ai découvert les musiques bulgares et les musiques, on va dire, des Balkans, et surtout que j'ai découvert les procédés harmoniques des musiques populaires. Voilà, et c'est ça pour moi qui a été un marqueur hyper important. Donc je rentrais en France, j'écoutais énormément Giovanna Marin, j'écoutais énormément aussi ce qui était produit par les Corses en France, et ce qui était, voilà. Et tout ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. En même temps, pour moi, il y avait vraiment, à l'époque, une familiarité, une parenté évidente entre ces musiques, ces sons et le punk que j'affectionnais. Donc c'était pour moi, il y avait vraiment quelque chose qui était réellement dans la spontanéité de l'expression populaire, en fait. Il y avait quelque chose de très parent, et cette parenté me plaisait énormément. Et fort de tout ce que j'avais retiré d'enseignement en Italie et en Bulgarie, quand je suis rentré à Marseille, je me suis dit, c'est quand même curieux que chez nous, il n'y ait pas tout ça. Je savais bien que ce n'était pas vrai, puisque j'avais déjà rencontré Carlotti, j'avais déjà rencontré pas mal de monde qui m'avait au contraire éveillé à une certaine curiosité pour ce qui était produit par la musique occitane, mais je ne trouvais rien qui me satisfasse vocalement.
Tu épouses cette cause occitane, en tout cas cette vocalité occitane. Qu'est-ce qui compose ensuite ton travail musical ? D'où ça vient ? Où est-ce que tu as cherché ?
Alors, étant donné que mon grand moment de formation vocale, c'était en Italie, auprès des gens qui chantaient la classique en napoletana, moi, ma voix s'est formée là. Et le passage en Bulgarie a fait que j'ai vraiment compris certaines choses grâce aux musiques de Macédoine et aux chants de Macédoine, chants masculins pour la plupart, qui ne sont pas des chants féminins, à la différence de tous les chants qu'on connaît, du répertoire du mystère des voix bulgares, etc. Là, c'était vraiment ce qu'on appelait diaphonie macédonienne. J'ai voulu introduire des aspects liés à ça dans Gatchanpeg, mais ce n'était pas possible. Ça n'avait pas encore maturé en moi, et parce que la proposition essentielle, elle était vraiment très très liée à la vocalité corso-italienne qu'on avait développée avec Barbara, et dans laquelle Sam s'est inséré de façon très naturelle. Lui ayant grandi dans un quartier où il y avait beaucoup beaucoup de gitans, avec cette vocalité particulière qu'on lui connaît, ben ça a fonctionné immédiatement. Ça fonctionne toujours d'ailleurs, c'est miraculeux. À chaque fois qu'on se retrouve, ça marche. N'avient pas la pensée d'éveiller Jésus-Christ. 99, 2000, 2001, pendant 3 ans, je suis retourné en Algérie, vers Béchal, dans la ville de Beni Abbès. Et là, j'ai réappris à jouer du bendir. Et donc, j'ai constitué un répertoire. Au départ, en essayant d'expliquer que peut-être ça ne serait pas religieux, eux, ils s'en foutaient un peu. Ils me disaient, nous, de toute façon, tout ce qu'on chante est religieux. Et puis, ils m'ont dit, non, mais il faudra chanter avec nous. Moi, je dis pas de problème, dès qu'il faut chanter, je chante. J'ai commencé à faire ce répertoire avec eux, donc qui s'appelait Gatchanpeg Alidal à l'époque. Des chansons, je trouve, faites avec beaucoup de soin, parce que je ne voulais pas me tromper de discours. C'était un spectacle qui était fait pour la France, mais nous, on s'intéressait au fait que les Algériens l'aiment aussi. Après, les gens du Corps de la Plane sont venus pour le chanter avec moi quand le groupe s'est formé. Je pense que la plus belle chose qu'on ait chantée, eux, ils ont une... Alors, Beni Abbès est connue dans tout le sud algérien pour être la plus belle ville qui, au moment du Mouloud, c'est-à-dire au moment de la célébration de la naissance du prophète, qui est basé sur... Enfin, c'est un moment qui n'est pas toujours le même dans l'année, comme dans beaucoup de célébrations musulmanes. Et donc, il se trouve que la plus grosse production en musique traditionnelle qu'on connaisse en Provence, ce sont les Noëls. Donc ce sont des chants qui célèbrent la naissance de Jésus-Christ. Et donc j'ai décidé de faire un Noël d'Iboumian sur le Mouloud, sur ce qui est chanté pendant le Mouloud. Et en fait, là par exemple, on est dans deux mystiques populaires qui se rencontrent. Et pour moi c'était très intéressant. J'ai réfléchi sur la question d'appropriation à ce moment-là, j'ai pris la décision. On était en 2003-2004, il y avait déjà des choses qui étaient publiées aux États-Unis, en Amérique du Sud, là-dessus. J'étais informé par mes amis anthropologues et de tout ce qui se réfléchissait là-dessus. Et j'y avais réfléchi moi-même quand j'avais introduit des éléments italiens ou bulgares dans ce que je présentais. Donc j'avais réfléchi à la pertinence de ce que je faisais. Et là, je me suis dit, effectivement, je n'interpréterai jamais ces chants sans eux. Et je dis toujours que le bendir, c'est un emprunt. D'accord ? Donc c'est un emprunt, ça veut dire qu'on le rendra à un moment. Ce qui est produit en Occitanie n'est pas issu de la domination impériale. C'est issu d'une réaction, d'un besoin aussi de réparer une dépossession, de déconstruire tous les mécanismes de cette dépossession culturelle qui a produit cette acculturation effroyable en France. Donc on vit dans un pays où la dépossession a été une façon de construire la nation et de construire le projet culturel national. Quel peuple peut avoir du respect pour la possession des autres, pour le folklore des autres, s'il a été lui-même dépossédé. Et si on lui explique que la dépossession dont il a fait l'objet est la conséquence logique de l'universalisme et des Lumières. Comment nous, inconsciemment, parce que je ne dis pas ça pour pointer les gens, parce que moi aussi ça arrive à tout le monde, on a des réflexes qui sont vraiment ancrés dans le racisme et la colonialité. Comment le Rassemblement national et le fascisme français, c'est aussi nous, en tant qu'Occitans, en tant que Blancs, en tant que personnes qui reproduisent des dynamiques coloniales ou racistes, sans s'en rendre compte réellement, sans prendre en compte le degré, comment dire, d'inconscience qu'il y a à reproduire sans se poser de questions. Et en fait, c'est la dignité qu'on refuse aux autres, parce que nous, notre indignité, on essaie de la surprotéger. J'ai pris réellement conscience de l'obscénité de l'appropriation culturelle grâce à Nora Morioncourt, qui est l'administratrice de la compagnie du Lamparou, qui a été très sensible à tous ces sujets, et aussi grâce à ce qu'on appelait en 2005 les indigènes de la République, en lisant leur production à la première lecture dans un déni très blanc, puis ensuite en comprenant petit à petit qu'on avait affaire à des gens qui prenaient réellement en main leur destin d'une façon admirable. Quels que soient les désaccords qu'on peut avoir avec des parties précises du colonialisme français, du colonialisme qu'on vit aujourd'hui, qui est un autre colonialisme intérieur, qui n'est pas assez interrogé par les gens qui ont travaillé sur le colonialisme intérieur, parce qu'il y a un vrai colonialisme intérieur au niveau de la gestion des populations maghrébines en France depuis 64. Un objet de réflexion qui serait intéressant en tant qu'Occitan pour moi de porter.
La caribou enquisto de sus de papier que les trace lipis tu nos destinaye hospitalier et c'est une star raciste.
Manu Théron fait ici référence au colonialisme intérieur, une notion qui apparaît dans plusieurs mouvements régionalistes d'Europe dès la fin du XIXe siècle, mais qui est réactivée par l'occitaniste Robert Laffont dès les années 1950, au moment où la décolonisation est au centre de l'histoire française. Critique d'une structure étatique centraliste et capitaliste, les colonisés de l'intérieur dénoncent alors les inégalités économiques entre régions, la dépossession des moyens de production et l'aliénation des peuples de France. Un parallèle est clairement fait entre l'administration des colonies et celle des provinces, et dès les années 1970, Robert Laffont démontre que les travailleurs immigrés et les mouvements régionalistes doivent s'allier dans un même combat contre le colonialisme intérieur. Pour revenir à la musique et à ce que Jérémy Piola disait en tout début de cet épisode sur les effets destructeurs de la colonisation jusqu'à la culture des Blancs, il y a bien sûr dans son discours un angle mort, celui de ces résistances régionales, politiques et culturelles, bien conscientes des violences structurelles qui s'exercent sur les langues, les esthétiques, les savoirs, les chants, les danses et sur la vie collective. L'adhésion à la culture légitime française était condition de l'intégration au projet national, au progrès, à la réussite sociale et à la participation aux espaces dominants. Ce que les indigènes de la République et les décoloniaux appellent aujourd'hui la blanchité. Cette blanchité historiquement construite et validée par des codes sociaux dont le prix était l'abandon d'éléments culturels ancrés, traditionnels et communautaires. Il y a, dans ces musiques occitanes de Marseille, un son, une énergie, un discours qui emprunte, certes à l'Algérie, à l'Italie, à la Bulgarie, au flamenco, mais aussi à l'Occitanie elle-même, à sa littérature et à son histoire politique. Et c'est tout cet ensemble qui sonne, quelque part, comme une trahison de la blanchité. Sam Carpienia grandit à Port-de-Bouc dans une famille d'ouvriers originaires de Normandie et de Pologne. Il apprend le provençal en parallèle de ses activités musicales. Comme Manu Théron, il rencontre le Massilia Sound System. Il découvre les œuvres de l'artiste Gianmarie Carlotti et de l'intellectuel Félix Castan. Il développe une vocalité entre rock et flamenco, s'approprie le mandol algérois et le tambourin des Pouilles. Il devient, avec Gachampeg, Dupin et aujourd'hui Delacro, un artiste important de la scène marseillaise occitanophone.
L'héritage musical, moi, familial, c'est la musique classique. Bien que mes parents soient... Oh, bon Dieu, ils feraient la gueule, mais c'est des prolos, quoi. Et tous les chansonniers... Brel, Ferré, Brassens, Ferrat, Reggiani, Moustaki. Oui, je pense qu'il y a un gros héritage de ma famille pour ce qui est d'aimer la musique, et la belle musique. Après, on est aussi dans les années 70, c'est le mouvement parti communiste, il y a un côté comme ça de se cultiver, tu vois, mais, d'éducation populaire. Les enfants ne devaient pas reproduire le même métier que le père, ils devaient faire des études. Mais non, le flamenco, ça vient pas de la famille, l'occitan non plus. C'est quelque chose que j'ai construit parce que un jour mon père m'a dit mais finalement tu es d'ici. Quoi. Lui il s'est jamais senti d'ici. Mais il m'a dit mais toi tu es d'ici. Quoi. Donc, j'ai construit mon identité dans le local, dans la vie de tous les jours. De Granger à Port-de-Bouc, c'est quand même une ville. Italienne, grecque, espagnole, dans un petit port méditerranéen avec des ouvriers qui sont venus de partout pour travailler à l'usine. Donc forcément, ça crée un truc. Alors moi, le flamenco, il existe à Port-de-Bouc, où j'ai grandi, avec une forte communauté gitane. Parfois, je suis invité dans des mariages. Où c'est présent dans la vie locale, à travers une voiture qui écoute du flamenco à fond la caisse, une fête de voisins où tu entends la guitare. Moi, j'ai une fascination à cette époque-là, un choc, quand j'écoute Camarón et la Isla. Et je me dis, mais comment c'est possible de chanter comme ça, en étant sûr que c'est impossible, c'est pas quelque chose, tu peux pas, c'est pas pour, tu arriverais jamais à faire ça. Je dirais presque qu'aujourd'hui, j'en serais capable techniquement, mais ça a pris 30 ans. Après la fac, donc, c'est un pote à moi, un voisin, qui me montre les premiers rudiments de la guitare flamenca, les bulerías et tango. Puis on écoute Camarón à fond la caisse, on chante, on apprend quelques chansons, on fait des trucs comme ça. On va dans les tablaos à Marseille, il y a quand même un gros niveau d'artistes ici. J'ai parfois essayé dans des fins de soirée avec des gitans de prendre un peu la voix, j'ai vite senti qu'il fallait que j'arrête.
Pourquoi ?
Parce que c'est pas bienvenu. Un autre soir, je me retrouve dans un bar. Je chante flamenco avec deux gars que je connais du quartier et que j'avais pas revu depuis longtemps. Je chante Dukende, ça se passe plutôt bien, mais ça monte beaucoup en alcool. Et ça dégénère complet, je me prends un coup de couteau, 30 points. Et là, je me dis, bon, il y a un petit problème avec le flamenco, peut-être.
Tu veux dire que c'était lié, l'incident, bon, l'ambiance et tout, mais au fait que tu étais peut-être à un endroit qui n'était pas...
Je dois avouer qu'il y a quand même cette question-là qui arrive petit à petit. Qui je suis, moi, pour faire ça? Est-ce que je ne suis pas dans l'imitation? Et j'essaie de comprendre pourquoi ça peut être mal perçu, tu vois. Aujourd'hui, je fais hyper gaffe, tu vois. Après, on n'est pas en Espagne. En Andalousie, je suis allé une fois à Granada. Fin de soirée, fin, tu vois, et les gitans. Fin. Et je m'envoie à la voix, tu vois. Et c'était plutôt bien apprécié, quoi. Fin, tu sens que c'est plus détendu en Espagne. En Espagne, le flamenco, il est national. C'est-à-dire, Camarón, il y a eu un deuil national, quoi. Par la suite, je me retrouve avec... on m'invite sur scène à la fin d'un concert où je fais un tango. Et je sens pareil que c'est pas très apprécié en fait. C'est un milieu qui est quand même dur. Je me rappelle que Bernardo Sandoval, il en a beaucoup souffert. Qui est un super guitariste, mais qui pareil, c'est des milieux très fermés, ils préservent leur truc.
Dans le monde de circulation sociale et culturelle que nous vivons, il existe encore des limites à l'appropriation, des territoires gardés, des façons de faire appropriées et d'autres mal appropriées, des communautés divisées elles-mêmes entre d'un côté l'envie d'accueillir, d'ouvrir, de partager et de l'autre une défiance vis-à-vis d'un système qui fait argent de tout bois sans redistribuer et qui de surcroît vide de sens ou édulcore les pratiques résistantes et contre-culturelles. Car, et c'est là que réside leur force collective, ces formes culturelles, très convoitées pour leur audace et leur pouvoir émancipateur, sont nées depuis cette place minoritaire, contestataire et communautaire. Elles sont une subsistance matérielle et immatérielle d'un vécu collectif et de rapports sociaux. Dans son essai « Everything but the burden »,« Tout sauf le fardeau » ou « Comment les Blancs s'emparent de la culture noire », le musicien et écrivain Greg Tate rend compte de l'histoire culturelle et artistique des Afro-Américains et de la consommation, de la fétichisation de ces cultures par les classes moyennes blanches des États-Unis et même au-delà. Quelle frontière peut-on tracer entre l'appréciation culturelle et l'appropriation culturelle? S'agit-il d'admirer ou d'envier la culture des autres? Que recherchent les dits blancs qu'ils n'auraient pas, si ce n'est ce vécu collectif de résistance? Est-ce pour cela qu'entre minorités culturelles et politiques, la question de l'appropriation ne se pose pas de la même façon?
Pour résumer, avant de créer Gatchenpeg, j'écoute que des musiques anglo-saxonnes, ou contemporaines, ou des choses comme ça. Donc, dès que je monte Gatchenpeg, je pars dans le maquis, c'est-à-dire que je n'écoute plus rien de ce que j'avais écouté avant. Je me ferme complètement à la musique anglo-saxonne. C'est pour ça que je redécouvre Radiohead bien après, tu vois. Mais les Massilia, ça m'intéresse, tu vois, le côté solant, tu vois, très jeunesse marseillaise, quoi, qui moi me plaît. J'ai l'âge où je commence à prendre ma liberté, m'installer sur Marseille. Donc, je commence à fréquenter le cours de Pey Rossignan, de Provençal, qu'on organise à l'intermédiaire sur la plaine. Et du coup, le groupe expérimental qui s'appelait Dupin, où j'étais aux percussions, où j'ai commencé à intégrer du Provençal. Donc, ce que je dis souvent, c'est parce que j'ai appris à parler Provençal, bien avant de chanter, c'est devenu ma langue de chant. Donc, j'ai commencé à chanter à la fin des cours de Provençal. Je me suis mis à chanter parce que j'avais appris à parler provençal. Ça, c'est l'inverse complet de toutes les démarches actuelles où les mecs, ils veulent chanter. C'est pour ça que je suis hyper légitime, à mon avis, dans ce discours un peu... On chante une langue si on en parle la langue. Donc, on est à la fois sur des musiques expérimentales, mais déjà, on intègre des choses occitanes. Ce qui ressemble complètement à ce que font la Novia aujourd'hui, par exemple. En fait, dès le moment où tu chantes occitan, on va te tamponner soit musique occitane, soit musique provençale. Nous, on appelait ça, pour déconner, la tradinnovation provençale. Du coup, tu te retrouves programmé dans des endroits où tu arrives et les mecs, sur la com du journal local, ils ont marqué musique provençale. C'est un peu dommage parce que c'est qu'une partie du truc, quoi. Ça, c'est un peu problématique. Si tu veux, moi, mon truc, c'était de dire, tiens, je vais chanter de l'occitan comme du flamenco. Moi, j'adorais ce timbre de voix, tu vois. Et pour moi, l'occitan, il devait me permettre d'exprimer vocalement, de me dire, tiens, on va créer quelque chose de local qui s'inspire du flamenco puisqu'il est présent ici, mais en y mettant quelque chose à nous, quoi. Et nous, c'est qui? À ce moment-là, bon, moi, quand je dis je suis normand, quand j'aime bien, parce que des fois, ça fait réagir, quoi. Où ça casse les idées qu'on peut se faire d'un chanteur occitan. Ben, à travers le mouvement du Massilia, tu vois, Carlotti qui est pas loin, qui a marqué les années 80, 70, 80, je veux dire, il va se passer quelque chose de fort, tu vois, au niveau de l'occitan ici, de rentrer dans un mouvement culturel, politique, et d'être acteur de ça, et au centre de ça. Peu importe si moi je suis né à Évreux, moi j'ai grandi à Port-de-Bouc. Tu vois, chercher une légitimité à travers une filiation. Territorial ou familial, moi ça me casse les couilles. Je me dis, mais moi j'ai pas de maison, moi. Hein. On a vécu en HLM, on est propriétaire de rien. Heureusement qu'il y a le castan, quoi. On n'est pas le produit d'un sol, mais de l'action qu'on y mène. Voilà, ça de suite, ça. Je respire, quoi. À partir de là, tu ouvres la porte. Et on n'a pas arrêté d'ouvrir la porte. Moi je suis à l'aise quand je vois un public métissé avec des gens, voilà. L'urbain m'intéresse pour ça, tu vois. Marseille. Port-de-Bouc d'où je viens, pour moi, une société saine, quoi, c'est quand ça brasse et que peu importe d'où tu viens, tu arrives à faire des choses, créer des nouvelles propositions musicales. Je crois que ça se fait beaucoup, hein, on parlait du rap, des musiques urbaines. En tout cas, pour moi, le mouvement occitan, c'est le mouvement occitan marseillais, quoi. C'est lui qui m'a intéressé, dans lequel je me suis senti à l'aise, quoi. Moi, je disais à une époque, c'est l'amour qui te porte vers un chanteur, une tradition musicale. Intérieurement, tu aimes cette musique. Elle te fait vibrer, tu l'entends. Pour quelqu'un qui a passé 10 ans à travailler, je sais pas moi, le DAF, de lui jeter dans la gueule, c'est pas ta musique, qu'est-ce que tu fous là? Là, il y a un vrai problème, à mon avis. Pourquoi Rosalia, on lui a dit, mais qu'est-ce que tu fous à chanter du flamenco? Elle le fait très bien. Et elle s'en est pris dans les dents. On voit de suite la différence entre ceux qui sont vraiment allés au fond des choses, qui ont passé du temps certainement dans certains pays avec des gens qui comprennent où ils sont, avec le respect que ça impose, et ceux qui viennent en vacances dans la musique, quoi. Prendre le meilleur, entre guillemets, de chaque culture et monter un répertoire, tu vois, où tu vas mélanger dans le même concert de l'italien, de l'espagnol, la Bella Ciao et des musiques irlandaises ou je sais pas quoi, tu fais une espèce de melting pot musical. Là, peut-être qu'on se dit, ouais, bon, c'est que ça veut dire quoi? Tu as vidé la musique tu en gardes que le, voilà, ce qui t'intéresse. Tu vois. Mais il y a aussi des gens qui sont juste là pour se faire de la thune et donc il faut savoir avec qui tu te solidarises. Par exemple, moi, je suis allé chanter au Sénégal. Mais je chante occitan, alors donc il y a une espèce de sympathie qui opère et d'un coup, ils revendiquent le Wolof. Mais j'ai pu constater aussi que le fait de chanter occitan et d'aller dans d'autres pays, c'est pas le français qui débarque, c'est l'occitan, tout guillemets, qui est en guerre avec la France. Nous, par exemple, on a intégré le tambourin des Pouilles dans la musique provençale. Et le benjir du bled, de l'Algérie, carrément du Sahara, dans la musique occitane. Et ça a fait école. Mais ça n'a jamais posé de problème. Hein. Moi, quand j'allais en Italie du Sud, on allait dans les rondes. On ne nous a jamais exclu des rondes. Et on jouait du tambourin. On voulait apprendre, on apprenait. C'était apprécié là-bas. Ils ne m'ont jamais dit, ouais, vous êtes en train de nous voler notre culture. Parce que peut-être... on était un groupe occitan. Nous, en 99, c'est un peu le début de, du on pourrait appeler ça un revival musical. Allez, deux ans après, c'était un monde de fou. Tout le monde se mettait à faire de la pizzica. Caballo, mon pote, il était scandalisé par ce qui était en train de se passer, parce qu'on vit de cette culture-là de tout son sens, et pour la vendre aux touristes. Et moi, je lui disais, faussement naïvement, je me disais, putain, mais j'aimerais bien qu'il y ait un tel engouement pour la musique occitane, mais ça se produit pas.
Le tourisme culturel s'est largement développé depuis la fin du XXe siècle. Un engouement renouvelé pour les musiques traditionnelles et populaires participe désormais de nouveaux marchés culturels qui empruntent des chemins menant à ces musiques considérées comme authentiques ou non altérées par l'hégémonie occidentale, l'uniformisation esthétique. Mais il est évident que cette quête de culture locale, en devenant elle-même un nouveau produit, détruit peu à peu l'objet de son désir. Le capitalisme ne récupère-t-il pas tout ? Y compris les pratiques qui permettraient justement de s'en échapper. Je souhaitais dans cette chronique, aux côtés de Manu Théron et Sam Carpegna, partager l'idée que la culture n'est pas un acte de consommation. Sam Carpegna nous a rappelé la phrase de Félix Castan, « On n'est pas le produit d'un seul, mais de l'action qu'on y mène ». On pourrait y ajouter ici qu'on ne peut pas décréter une culture, car elle est aussi le produit d'actions qu'on y mène collectivement et qui prennent place dans des structures sociales, dans des récits communs. Mon expérience de l'occitanité emprunte à la fois à Lafont et à Castan, à la fois à la force autochtone de quelques Occitans historiques et à celle des artistes audacieux et créatifs qui ont su s'approprier avec intelligence et légitimité des éléments culturels en présence autour d'eux. Merci à Jérémy Piola, Manu Théron et Sam Carpegna d'avoir partagé ici leurs réflexions sur le sujet qui nous anime ici. Dans le prochain épisode, nous aborderons la question de la transmission des chants et des danses en Occitanie dans le monde amateur et au cœur des transformations sociales contemporaines.
Et la musique, elle est à qui ? Chronique marseillaise et impertinente d'appropriation manifeste. Un podcast réalisé par Anaïs Vaillant et proposé par la FAMDT.